On rejoint maintenant M. Vincent Gaudreau, qui est chercheur à la Chaire Autodétermination et Handicap de l'Université de Trois-Rivières et qui fait donc son projet de mémoire là, sur les habitations pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Bonjour, M. Gaudreau.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, oui. Merci beaucoup de me recevoir. C'est une belle chance pour moi d'avoir la chance de vous parler aujourd'hui et de partager mes projets de recherche.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, les gens de la Chaire Autodétermination et Handicap et de l'Université de Trois-Rivières. Plus précisément, donc, vous travaillez sur les caractéristiques dans les résidences qui favorisent l'autodétermination et la participation sociale des personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, oui. Ma première question, qu'est-ce que l'autodétermination, Vincent?
Ah, c'est une bonne question. Donc, l'autodétermination, c'est d'être l'acteur de sa propre vie. C'est de faire des choix qui nous ressemblent, mais aussi d'avoir du contrôle sur son quotidien. On peut penser, par exemple, à quand on a décidé de déménager en appartement. Ben souvent, on part de la maison familiale, puis on commence tranquillement à décider un peu ben, à quelle heure on va se coucher, qu'est-ce qu'on va manger, si on fait un événement avec des amis. Ben pour nous, c'est des choses qui sont vraiment simples, mais lorsqu'on est une personne qui vit avec une déficience intellectuelle, qu'on a toujours vécu chez nos parents, ben souvent, c'est la première fois qu'on a la chance de pouvoir décider de ces petites choses-là du quotidien. Puis, c'est exactement ça, l'autodétermination, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions qui nous ressemblent et qui sont significatives pour nous.
Pouvez-vous donner des exemples de caractéristiques dans les résidences qui favorisent l'autodétermination des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle?
Oui, oui, absolument. Une qui m'intéresse énormément, c'est le fait de c'est la posture du personnel en soutien résidentiel. C'est entre autres le respect envers l'intimité que le personnel démontre au quotidien pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Souvent, on peut le voir lorsque les membres du personnel, ben, ils vont appeler avant de se déplacer dans le milieu de vie, dans l'appartement de la personne. Ils vont s'assurer de prendre un rendez-vous. Ils vont pas juste se présenter, cogner à la porte, puis dire bon ben. C'est ici, maintenant, ton rendez-vous est aujourd'hui, puis il n'y a aucune prévisibilité. C'est vraiment, ils prennent le temps de planifier dans l'horaire, de demander à la personne la permission, puis ça fait en sorte, justement, de permettre d'envoyer le message que l'appartement, ben, il appartient à la personne. C'est son chez-soi à elle, puis on respecte son environnement de vie.
Et puis, vous en avez parlé, donc évidemment, il y a des personnes avec déficience intellectuelle qui peuvent vivre dans des appartements plus traditionnels. Il y a aussi des personnes avec déficience intellectuelle qui vont vivre dans des appartements qui sont supervisés, donc avec du personnel qui est là, soit dans le jour, qui est là 24 heures sur 24, tout dépendant des besoins. Et vous avez nommé quelque chose, c'est aussi de cogner à la porte, même si ces personnes-là donc travaillent dans le même environnement, de cogner à la porte avant d'entrer, par exemple. C'est un détail, mais ça fait toute la différence.
Exactement. Puis, il y en a plein d'autres. J'ai plein d'autres exemples. Il y en a une tonne aussi. Il y a entre autres les outils qui sont utilisés qui font aussi une grande différence. On peut penser à la tâche d'aller à l'épicerie. Le fait d'avoir un outil qui est organisé en fonction des allées avec des pictogrammes qui vont permettre à la personne qui reçoit sa sœur à souper de pouvoir facilement réaliser la tâche, de pouvoir simplifier une tâche qui est complexe en une tâche maintenant vraiment plus simple, puis pouvoir aller trouver les chips préférés de sa sœur dans l'épicerie, de pouvoir préparer son repas et de recevoir sa famille. Ça fait toute une différence pour la personne dans son quotidien, puis ça lui permet justement de faire comme tout le monde.
Oui, et ça favorise l'autonomie là, de ces personnes-là, hein, parce qu'on a souvent tendance à faire pour eux ou à faire à leur place, mais développer l'autonomie, ben ça permet à ces gens-là, donc avec les années, de devenir de plus en plus autonomes et d'être capable, vous l'avez dit, de faire des choix qui correspondent à leurs besoins et à leurs préférences. Qu'est-ce qui vous a mené plutôt à vous intéresser donc aux caractéristiques résidentielles qui favorisent l'autodétermination et la participation sociale?
Ça vient de mon expérience sur le terrain. J'ai travaillé pour des organismes communautaires qui ont développé des milieux de vie, des milieux résidentiels. Puis moi, ce que j'ai observé à ce moment, quand je travaillais sur le terrain, c'est que il y a des personnes qui s'épanouissent en vivant dans un milieu résidentiel, en vivant dans leur chez-soi. Puis en questionnant ces personnes-là, je me suis aussi rendu compte que ils ont vécu dans de nombreux milieux résidentiels avant de déménager là où je travaillais. Mais dans ces autres milieux-là, il n'y avait pas la chance de s'épanouir. Il n'était pas aussi pétillant. Il avait pas une vie illuminée comme dans le milieu où je travaillais. Puis je me suis demandé à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Parce que la personne, elle n'a pas changé du tout au tout en déménageant. Elle n'a pas acquis des nouvelles capacités par magie. Donc, pour moi, c'était vraiment l'environnement qui faisait la différence. Puis ça m'a amené justement à me poser la question, puis à regarder plus en profondeur ben, les caractéristiques des milieux résidentiels qui vont vraiment faire en sorte de créer les conditions favorables pour l'autodétermination et la participation sociale.
On a parlé d'autodétermination. Parlons maintenant de la participation sociale. Qu'est-ce qui favorise la participation sociale dans un milieu résidentiel?
Ah, ça, c'est une bonne question. Puis c'est justement en ce moment, en travaillant sur mon mémoire, il y a beaucoup de belles choses qui ressortent de tout ça. Puis l'une d'entre elles, c'est entre autres le fait de pouvoir créer des milieux au sein même du milieu résidentiel qui vont permettre aux personnes de pouvoir échanger entre elles. Parce que la participation sociale, ça, c'est pas seulement à l'extérieur du milieu résidentiel, mais c'est aussi à l'intérieur que ça commence. Il y a une scène qui me vient en tête, là, c'est quand j'ai rentré dans un milieu résidentiel où là, il y avait 4 personnes qui étaient en train de préparer des mini-omelettes dans la salle commune, puis il y a une d'entre elles qui a dit « Ah ben, moi, je suis pas vraiment bonne avec les couteaux, j'ai de la misère à couper, on dirait que je suis malhabile », puis aussitôt, sa voisine, sa collègue, elle lui a répondu « Ben regarde, tu ne tiens pas comme il faut le tenir comme ça, place-toi de cette façon-là, ça va être plus simple. » Ben, c'est justement dans cette scène-là qui a de l'air de rien, mais la participation sociale, c'est pas de participer à l'activité, mais c'est justement les interactions entre les gens autour de la table. C'est le fait qu'elles puissent apprendre l'une dans l'une de l'autre, mais aussi se soutenir. Mais pour faire en sorte justement que la participation sociale, elle puisse se développer puis prendre forme dans le milieu, ben il faut des places pour pouvoir échanger avec les autres, mais il faut aussi créer une culture d'entraide où les personnes vont se respecter, mais aussi pouvoir demander de l'aide sans avoir peur d'être jugé. Donc, c'est ce qui favorise la participation sociale, c'est d'avoir des lieux disponibles pour ça, puis des lieux organisés.